Ecclesia Magazine. Ecclesia Magazine. Maxime Dahl.
Allez, on continue notre série estivale aujourd'hui en vous proposant des idées de vacances ou plutôt de stages musicaux. Constitués de chanteurs passionnés par les musiques anciennes, ensemble, Vox in Rama, sous la direction de l'illustre Frédéric Rentière, se consacre à la reconstitution, première tradition vocale de l'Occident ancien, et propose en août prochain notamment une voire deux sessions de formation autour du chant grégorien et médiéval. Et nous en parlons aujourd'hui avec Frédéric Rentière, précisément directeur musical de cet ensemble. Bonjour à vous Frédéric.
Bonjour Maxime.
Alors Frédéric, je l'ai reçu il y a quelques semaines, quelques mois peut-être, pour évoquer notamment un CD que vous comptiez sortir, si je puis dire, dans les mois à venir, sur Hildegard de Bingen, et vous aviez lancé notamment un financement participatif. Oui. Où en est ce CD?
Alors, le financement participatif a très bien marché. On a eu 103% du financement. Et il s'est terminé fin mai. Et le CD est enregistré début juin. Et le CD va sortir le samedi 29 septembre, donc dans le cadre d'un concert à l'église évangélique Saint-Marcel. Et le film, d'ailleurs, du spectacle aussi, la vidéocaptation. Donc, samedi 29 septembre à 20h à l'église Saint-Marcel, église luthérienne Saint-Marcel. On aura peut-être l'occasion.
Bien sûr, on aura le temps d'y revenir d'ici là. Juste peut-être quelques mots aux auditeurs qui prennent justement le fil d'Hildegard de Bingen en cours. Hildegard, donc docteur de l'église, je ne m'abuse, du 11e siècle.
12e.
12e siècle, et qui a composé effectivement tout un répertoire musical assez conséquent.
Oui, une œuvre vocale gigantesque et très, très originale.
Et comment avez-vous d'ailleurs choisi, fait ce choix des œuvres d'Hildegard justement à interpréter devant un tel.
Alors, ce qui m'a amené vers Hildegard, c'est le désir, c'était la recherche d'un équilibre dans un compositeur du Moyen-Âge. Entre la spiritualité, l'inspiration et la composition, une espèce d'équilibre entre terre et ciel, on pourrait dire. Voilà. Mmh. Et dans mes recherches, Hildegard de Bingen répondait parfaitement à cet équilibre, et j'ai aussi mieux compris sa modernité, parce qu'on en parlait beaucoup autour de moi, donc très vite je me suis dit, mais tiens, cette Hildegard de Bingen, il faut quand même que je regarde de près, parce que tout le monde en parle aujourd'hui, tout le monde a quelque chose à dire sur elle, donc voilà, et puis du coup, j'ai voulu contribuer en reliant justement la dimension à la fois ancienne, avec un travail historique, musicologique précis, et en même temps dégager dans le cadre d'un spectacle sa modernité. Mmh. Et on l'a fait 8 fois, là on va le refaire encore, et je suis heureux du succès que ça a, parce qu'au début on s'est lancé vraiment dans une aventure, on ne savait pas du tout où on allait aller. Et le CD là, qui est en train d'être préparé, est très intéressant, parce qu'en fait il y en a deux compositions contemporaines, deux créations qui ont été faites à partir d'Hildegard de Bingen, et elle est vraiment la porte vers la modernité. Ça, c'est vraiment une expérience. Maintenant, je me rends compte à quel point l'intuition était juste par rapport à ça.
Alors, qui sont les interprètes, justement, dans le cadre de ce CD des chants d'Hildegard de Bingen? C'est votre ensemble, Vox in Rama?
C'est des chanteurs de l'ensemble Vox in Rama, mais c'est une géométrie variable. Donc, en fait, il y a des chanteurs qui chantent plusieurs programmes, d'autres qui ne chantent qu'un programme. Et puis, on a aussi des instrumentistes qui se sont venus se joindre, des gens aussi qui ont travaillé sur des sons d'ambiance, qui ont utilisé tout un tas d'instruments de résonance et de percussion pour recréer les ambiances que Hildegard décrit dans ses visions. Donc ça, après, il faut voir le spectacle, parce que finalement, il sera en ligne justement à partir du 29 septembre. Les gens pourront le regarder. Ce sera aussi une occasion justement de laisser un témoignage sur le travail qui a été fait, qu'on va d'ailleurs refaire dans les cryptes de l'abbaye Saint-Victor à Marseille. Donc on est heureux, c'est le lieu le plus ancien du christianisme occidental, première fondation chrétienne. Donc ce serait très intéressant de faire résonner le chant d'Hildegard dans cette abbaye, dans les cryptes de cette abbaye. On pourrait d'ailleurs consacrer une émission, ce serait très intéressant, par exemple, d'écouter comment le travail qu'a fait Laurent Mallet et Marc-Frédéric Hindorf, deux compositeurs, entendre aux auditeurs comment, d'un chant d'Hildegard, en restant toujours fidèle à son chant, ils ont créé une polyphonie qui met en espace le cœur des anges dont parle Hildegard tout le temps dans ses visions. En fait.
Et la langue des anges, on en avait parlé aussi.
Et la langue des anges.
La langue des anges d'Hildegard. Enfin, on y reviendra quand le CD paraîtra donc à partir de septembre prochain. Alors Frédéric, l'été a commencé depuis quelques jours.
Oui.
Et en plus d'être un interprète d'Hildegard de Bingen, vous faites de nombreuses choses, et notamment des séances, si l'on peut dire, des stages de formation au chant grégorien et au chant médiéval. Et c'est ce que vous proposez cet été. Alors, il y a plusieurs stages. Oui. Certains sont déjà complets.
Oui.
Mais d'autres où il y a encore de la place, notamment ce stage de pratique avancée du chant grégorien et médiéval qui se déroulera du 6 août prochain au 11 août. Et justement, à l'ancien monastère de Sainte-Croix. Parce que justement, vous faites vos stages, c'est ça qui est intéressant, dans des hauts lieux du catholicisme.
Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une ancienne fondation antonine, rattachée à Saint-Antoine-l'Abbaye, donc l'ordre hospitalier des Antonins. C'est un lieu magnifique qui a été complètement restauré. C'est une véritable merveille. Et on a plusieurs salles où chanter, qui étaient des salles probablement où il y avait une pratique du chant. Donc c'est très émouvant de repartir des vibrations du lieu, de la pratique liturgique du lieu. Ce n'est pas un lieu neutre, c'est un lieu qui a beaucoup à nous transmettre. Et du coup, on réactive aussi et on se nourrit de ça. Et là, le thème de ce stage, ce sera sur l'image, le geste et les affects, donc les émotions qui interviennent dans le chant. Et oui, le chant grégorien, comme toute tradition, est vecteur d'émotions, d'images, d'images très fortes, d'images bibliques, évidemment.
Une émotion particulière.
Alors, d'une palette d'émotions assez très, très grande et qui sont des émotions subtiles, sont des émotions travaillées. C'est tout l'intérêt. Évidemment, quand on dit émotion aujourd'hui, on peut penser à tout. Ça peut être un match de foot. En ce moment, je crois que...
Ce soir, justement.
Oui, ce soir, ça va être terrible. On va entendre des cris.
Est-ce que c'est de l'émotion, ça aussi, Frédéric?
Pour moi, je sais pas. Après, l'émotion, pour moi, c'est quelque chose, c'est une transformation complète. Mais alors, je suis incapable de dire si quand quelqu'un hurle parce qu'il y a un but qui était mis dans le bon sens, si vraiment c'est une émotion ou pas. En tout cas, il y a une manifestation, il y a une effusion, on pourrait dire ça. C'est sûr, l'effusion, on y assiste. Mais après, pour moi, l'émotion, c'est quelque chose qui est lié à la transformation, qui est lié aussi à un travail sur sa mémoire, qui nous fait grandir, qui nous fait mûrir. Et pour moi, c'est ça l'émotion, c'est ça dans le sens noble. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les traditions liturgiques qui sont souvent, qui manient l'émotion, mais qui la manient avec le beau et le sacré. Oui. C'est-à-dire que c'est mêlé, c'est quelque chose qui nous élève en même temps, qui nous transforme. On est travaillé par le chant, si vous voulez. On le travaille beaucoup.
Et c'est une
émotion, mais on est travaillé par le chant qu'on travaille.
C'est une émotion qui, m'en dirais-je, se produit dans le corps d'une manière intérieure plutôt que extérieure.
Elle se produit dans les racines du corps, dans quelque chose vraiment, ce qui est vraiment, on pourrait dire, c'est vraiment dans le dos, quoi.
Oui.
Alors, c'est ce que certainement vivent les gens, par exemple, les moines qui ont la chance de pouvoir chanter ça quotidiennement. Pas forcément que des moines, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui ont une vie ou qui ne sont pas du tout dans la religion, qui pourtant pratiquent beaucoup ces chants. Aujourd'hui, on est dans une époque où, finalement, le spirituel et le religieux, des fois, sont ensemble et des fois, ne sont pas ensemble. Donc tout est possible, mais effectivement le travail se fait au niveau de ce qui est archaïque, au niveau de ce qui est là aussi la fondation. Alors c'est pour ça que dans les stages on travaille beaucoup sur le souffle et l'alignement du souffle, c'est-à-dire qu'un chanteur qui par exemple a une posture ou qui déforme un peu son dos, il va forcément avoir des problèmes de pose de voix, de stabilité de voix, de justesse. Le plus souvent aussi ça impacte la justesse, et bien sûr c'est la base. Mais cette base-là, elle se travaille tout le temps. C'est-à-dire même un professionnel la travaille tout le temps.
Donc c'est un stage. Ce sont des stages avant tout de technique musicale.
Alors ça, c'est l'aspect, on va dire. C'est pas de la technique au sens. C'est un travail plus d'appréhension du corps. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je pourrais l'élargir au christianisme, mais le chant sans le corps, ça n'a pas trop d'intérêt. Et le christianisme sans le corps, je vois pas trop l'intérêt non plus, puisque c'est une religion de l'incarnation. Mais ce qui est intéressant, c'est d'abord d'appréhender le corps avec des outils sensoriels. Aujourd'hui, on a énormément moi, j'ai le contact, la chance de pouvoir travailler avec des thérapeutes qui vraiment ont une approche très concrète et qui aident, qui nous aident, nous, les chanteurs. Donc, du coup, j'aime bien transmettre ça. Et puis, après, il y a tout le langage, c'est-à-dire se remettre dans le langage du Moyen-Âge. Se débarrasser de l'idée, enfin très vite, de toute façon, on s'en débarrasse en 2 minutes en général de ce présupposé-là, c'est qui consiste à dire qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas d'affect. Au Moyen-Âge, on était dans un rapport au corps différent, etc. Alors il suffit de se plonger quelques secondes là-dedans, de se rendre compte que n'importe quel signe qui était utilisé dans le chant grégorien sont des signes, justement, on va dire, diacritiques. Bon, c'est un terme technique, ça veut dire qu'en fait, c'est ce qui va intéresser, comme dans toute la tradition religieuse, c'est-à-dire des accents qui ne sont pas les accents juste grammaticaux, mais des accents qui donnent. Vraiment les élans de la voix, comment la voix doit jaillir, quel est le goût du chant, c'est-à-dire quel parfum, quelle saveur doit avoir le chant. Le chant a une
forme de sensorialité active.
Le chant a un
active.
Goût. Ouais. Un chant qui n'a pas de goût, c'est un chant insipide, on ne l'écoute pas, on passe à autre chose, on ne le retient même pas. Qu'est-ce qui fait qu'on retient un chant? C'est parce qu'il a un goût, il a une saveur.
Est-ce que vous pensez, par exemple, que les chants d'aujourd'hui, parce qu'on évoquait la Coupe du Monde, on évoquait aussi toute la... toute cette espèce de, d'ardeur et de ferveur collective qui existe, une forme de communion un petit peu spirituelle entre les uns avec les autres, une communion affective en tout cas.
Au moins affective, ouais.
C'est vrai qu'on a cette idée un peu ridicule d'ailleurs, qu'avant finalement, notamment le Moyen-Âge, c'est 10 siècles d'obscur, de temps obscur. Le Moyen-Âge était le lieu finalement d'un manque de sens, de sensibilité, de sensiblerie. Et aujourd'hui, on serait justement dans le champ inverse, avec une espèce d'hypersensibilité où chacun peut exprimer son fort intérieur.
Alors que finalement, on est dans un réactionnel en fait. On est dans du réactionnel.
Complètement.
Mais c'est un mauvais réactionnel. Enfin, c'est un réactionnel qui est tronqué. Parce qu'en fait, il part sur une idée fausse du Moyen-Âge. Vous savez, de toute façon, l'idéologie du moment ne se construit que sur une déformation du passé. Il n'y a pas d'idéologie en soi s'il n'y a pas une réaction à ce qui a été. Donc, la première chose, mais elle se fait très facilement, très naturellement, un simple stage de chant grégorien, c'est se remettre en contact avec le Moyen-Âge. Ça transpire du Moyen-Âge, c'est l'âme du Moyen-Âge. Donc, à partir de ce moment-là, alors c'est pas que ça non plus, mais c'est quand même très, très important au Moyen-Âge. Et très vite, en quelques minutes, en quelques heures, après ça dépend aussi de la carapace, la dureté de la carapace, et des protections, mais se rend compte que c'est tout sauf ça. C'est le vécu, c'est un vécu qui transforme, qui est souple, qui nous modèle. C'est un vécu aussi, c'est un rapport à l'émotion et au temps différent. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, le rapport qu'on a à l'émotion, il est lié au rapport qu'on a au temps. On a un rapport au temps qui est, pour moi, une fuite du temps. C'est-à-dire qu'on a peur de la mort, on est obsédé par la mort, et on fuit le temps, on passe notre temps à fuir le temps. Au Moyen-Âge, le rapport à la mort est différent, puisqu'on prépare déjà l'après-mort. Donc forcément, le rapport au temps va être différent aussi. Le rapport même qu'on a à l'émotion, c'est un rapport de fuite. Donc qu'est-ce qu'on veut ? On veut une émotion qui est rapide, sans effort, qui nourrissent, mais en réalité, elle nourrit pas cette émotion-là. C'est une émotion, on pourrait dire, presque d'évacuation de peur.
Oui.
Voilà. Et c'est cette émotion-là que moi, je n'apprécie absolument pas. Enfin, en tout cas, je ne suis pas dupe. Je suis absolument pas dupe. Et je me méfie justement des liturgies modernes, qui sont des liturgies qui veulent, dans le sens large. Je parle même de non-catholiques. Liturgie au sens large, offrande offerte au peuple, du pain et des jeux, allons jusqu'à là. Tout ça, c'est une dimension, c'est une façon de faciliter cette évacuation de tension, mais elle ne résout absolument rien. Alors que l'émotion qui nous travaille, c'est l'émotion qui nous relie à notre mémoire et qui nous fait accepter d'où l'on vient et qui, du coup, nous aide à assumer où l'on va. Mais il ne s'agit pas de sensiblerie, il ne s'agit pas de prendre le mouchoir et de chialer pendant 3 heures. Il s'agit simplement d'assumer ce patrimoine qu'on porte en nous, de ne pas avoir honte, tout simplement, de ça. Et c'est tellement magnifique que comment pourrait-on avoir honte, d'ailleurs ? Ce serait terrible.
Et c'est vrai que, justement, vous évoquez ce Moyen-Âge et ces traditions, ces hautes traditions quand même liturgiques et surtout musicales. Quand vous dites Moyen-Âge, s'agissant du chant grégorien, il s'agit de quel siècle ? C'est sur tout le Moyen-Âge ? C'est sur une partie du Moyen-Âge ?
L'expansion du chant grégorien, il y a plusieurs écoles, mais enfin, grosso modo, c'est 7e siècle. Et la synthèse romano-franque qui va donner le chant grégorien, qui est en fait le chant grégorien, est une hybridation de plusieurs chants, hein, de plusieurs traditions d'Église. Qui va au 9e siècle va vraiment prendre une dimension théorique et va vraiment s'homogénéiser, mais de manière presque doctrinale à partir du 9e siècle. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'à partir du 12e siècle, on a vraiment pratiquement tous les grands textes de chant qui sont déjà notés sur portée, etc. Donc là, on est quelque part un peu déjà dans une phase de déclin, dans la mesure où la tradition orale commence à trop s'appuyer sur l'écrit. Et c'est ce qui va être à l'origine de la décadence. Mais il n'empêche quand même que, voilà, donc entre 7e et 12e siècle, on a vraiment quand même plusieurs siècles de développement. Mais par rapport à la question de l'émotion, il y a aussi une chose qui a été évacuée aujourd'hui, c'est la question du corps sacré. C'est-à-dire que vivre une émotion, chercher une émotion, essayer de provoquer des effusions sans un regard sur le corps, sans une recherche du corps sacré, de ce que le corps a de divin, ce corps qui nous, cette merveille qui se forme et qui est sans cesse se reforme, si on n'a pas une vision là-dessus, l'émotion, elle va être une émotion basse. Elle va être une émotion, finalement, qui va presque tirer vers les bas instincts.
Mmh. Or que une émotion tripale, un petit peu.
Tripale, et puis une émotion qui ne fait pas travailler sur la relation à l'autre, qui ne fait pas travailler sur la relation à soi, sur l'acceptation de soi. Mmh. Or que dès l'instant qu'on a une vision sur le corps, qui elle est justement de chercher ce qu'il a de sacré, l'émotion elle va monter, et c'est le but du chant grégorien, mais c'est le but de toutes les traditions de chant liturgique, c'est de faire monter la prière, c'est de faire monter l'émotion, c'est de faire monter le sentiment d'amour pour Dieu, etc. L'offrande, le thème de l'offrande. Hein, et c'est pour ça que moi, je ne me suis jamais empêché de dire, quand j'étais chantre, de dire, mais donc chanteur liturgique, de dire, mais une émotion qui n'est pas travaillée, comment peut-on l'offrir ?
Oui. Oui, ce n'est pas qu'une étoile filante qui s'agit
en nous. Tiens, je te balance mon émotion. Alors, je me ramène n'importe où, puis je te dis, tiens, j'ai envie de te balancer mon émotion. Mais moi, j'en veux pas forcément de ton émotion, tu vois. Parce que ton émotion, elle va peut-être me déranger, elle va peut-être même m'agacer, tu vois. Mais, et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas cette réflexivité. Parce que c'est quand même la base de l'éducation, justement, cette réflexivité.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi la nature, tout simplement, des hommes, si je puis dire, c'est-à-dire aussi de chercher, parce qu'on évoque notre société actuelle, mais on peut évoquer, par exemple, j'y pense comme ça, vous évoquiez les Pains et des Jeux, l'Empire romain, par exemple, où il y avait aussi ce rapport très tripal aux choses. Mmh. C'est que la majorité de la population, la majorité des gens ont besoin de ce rapport émotif et affectif, et donc pas forcément... Ce rapport, je dirais, initiatique à l'émotion.
Oui, alors bien sûr qu'il y en a besoin d'exutoire, on en a besoin et il y en aura toujours, mais de là à mettre, d'en faire un culte, je trouve que c'est un peu trop, voilà. C'est juste une question d'équilibre, c'est tout. Ouais.
Alors Frédéric, justement dans le cadre de ce stage que vous proposez à tous nos auditeurs, du 6 août prochain au 11 août prochain, l'ancien monastère de Sainte-Croix, donc il va s'agir finalement d'initier les gens qui viendront, vos élèves, si l'on peut dire, au chant grégorien avant tout, c'est bien cela?
Alors au chant grégorien, mais avec sous un angle bien sûr, une vision particulière, c'est-à-dire la relation entre le chant byzantin et le chant grégorien, le chant latin de l'Église. Et de voir, alors donc j'ai préparé tout un dossier, etc., puis sur des travaux scientifiques très sérieux. Et alors on voit très vite que tout l'art, notamment du chant byzantin, et toute l'ornementation qui est caractéristique, on a tous entendu à un moment donné, et on voit qu'en fait le grégorien est complètement pétri aussi de la même manière. Alors du coup, l'idée, ça va être de travailler sur on pourrait dire une espèce de catalogue d'émotions, mais typique du Moyen-Âge. Par exemple, une émotion, la nostalgie, par exemple. Qu'est-ce que c'est que la nostalgie? Bon, alors là, j'ai choisi, par exemple, un offertoire qui est très beau. Super flumina babylonis, ilix edimus, et flevimus, dum recordaremur tui sion. Donc, sur les fleuves de Babylone, là-bas, nous étions assis et nous pleurions. Et pendant qu'on se rappelait de toi, Sion. Donc, il y a toute la nostalgie de l'exode et du désir de retour. Et alors, ça va être le thème des larmes.
Et nostalgie, justement, qui est évoquée par les paroles de super Flumina Babylonis, mais aussi, j'imagine, par l'intonation.
Voilà,
par
alors, c'est l'idée, c'est qu'est-ce que le chant? Qu'est-ce que le chant va apporter? Le chant, il va apporter justement l'eau, la fluidité. Donc, rien que le début. Alors, en plus, il y a tous les signes qui sont intéressants, qui montrent qu'il y avait une tradition, que c'était ultra vivant. Hein. Super Flumina. Dès le début, on entend. L'image, donc c'est le pouvoir de l'image. Le Moyen-Âge travaille beaucoup sur l'image, mais pas comme nous aujourd'hui. C'est-à-dire, nous, on est prisonniers de l'image. Non, c'est l'image et ce qu'elle dégage, et ce qu'elle va faire, elle va nous faire voyager. Et c'est là où on ne va pas être dans un imaginaire réducteur, mais on va être dans un imaginaire du voyage. Voilà. Et après, on va avoir aussi tout ce qui va être, par exemple, pleurer, justement. Oui. Flevimus, en latin, c'est la même racine que fleuve, flumen. Donc, qui dit couler, dit bré, c'est le même mot en réalité. Donc, et flevimus. Donc, quand on chante, d'un seul coup, on voit les larmes qui se déversent dans le fleuve. Vous voyez, c'est cette poétique-là qui manque aujourd'hui. Et toujours cette image de l'eau et la nostalgie qui, elle, est en fait ce désir de retour, mais qui passe par l'eau, vous voyez. Donc, on a des interpénétrations d'images qui nous nourrissent. Et là, on est dans un travail sur l'émotion qui est à la fois corporelle et spirituelle.
C'est ça,
c'est pas que le corps ou que le mental décroché du corps, vous voyez. où finalement je me sens super intelligent, mais en même temps j'ai tellement peur de mon corps que
je
risquerais de hurler si jamais
C'est vrai que c'est le charme du Moyen-Âge, et vous avez raison de le rappeler, c'est cette polysensorialité d'une certaine manière où on arrive à mettre en accord d'une certaine manière.
C'est l'expérience de l'âme dans le corps.
Exactement.
C'est pas l'expérience de l'âme hors du corps. Ouais. Et aujourd'hui, l'erreur, c'est de chercher l'âme hors du corps. Bien sûr qu'elle est hors du corps, l'âme. Elle est partout. Mais elle n'est pas, si en tant qu'être humain, on la cherche hors du corps, pourquoi nous serions incarnés? Pourquoi on serait là? Ça n'a pas de sens.
Alors Frédéric, émotion, il y a la nostalgie. Oui. Y a-t-il d'autres émotions dont vous allez parler dans votre stage?
Il y a par exemple le cantique, ce qu'on appelle le cantique des degrés, c'est-à-dire le chant des montées vers Jérusalem. Alors c'est très important aussi dans le christianisme, par exemple, sur la joie de la montée, le cœur qui s'élève vers Dieu par exemple. Donc le graduel, le chant du psaume, l'etatus sum, je me suis réjoui, l'etatus sum, inis quae dicta sunt mihi, dans les choses que l'on m'a dites. In domum domini ibimus, vers la maison du Seigneur nous irons. Et donc là, le chant va essayer d'exprimer cette joie du cœur qui monte et qui va atteindre Dieu comme une espèce de fumée ou d'encens. Bon. Donc l'etatus sum inis quae dicta sunt mihi. Là, on voit la fonction du mélisme, c'est la joie intérieure. Hein. In domum domini. Alors, c'est vraiment cette idée d'alterner entre des appuis. C'est le chant, c'est ça, ce n'est que ça, c'est des appuis et des élans, et d'arriver à contenir ces élans.
Et c'est vrai qu'on imagine bien, effectivement, cette métaphore que vous utilisiez de l'encens s'élever comme ça et vacillant, puis oscillant.
L'image de l'encens, elle est omniprésente dans le chant de Grégoire. On a toujours, le corps est un vase sacré, le corps est un temple. Donc il porte la prière comme l'encens. Le premier lieu de la liturgie, c'est le corps. Et alors, on a aussi, par exemple...
Peut-être une dernière émotion, mon cher.
Une dernière émotion.
À nous faire vivre sur Radio Notre-Dame.
On n'en peut plus, arrêtez. Alors je cherche dans mon catalogue d'émotions, par exemple, justement le goût. Oui. On a parlé de goût tout à l'heure, ça pourrait être pas mal de terminer là-dessus. Le miel, c'est très intéressant parce que le miel, vous savez, vient du Cantique des Cantiques.
Oui.
Bon, Cantique des Cantiques, super important au Moyen-Âge. C'est tout ce qui est lié à la liturgie mariale. C'est le cantique
très sensuel, le Cantique des Cantiques.
Ah oui, c'est le cri le plus sensuel de la Bible. Oui. On peut pas avoir plus, plus torride. Et en même temps, plus spirituel. C'est ça qui est merveilleux. Et alors, par exemple, on va avoir, dès qu'il est question de miel, même si là, il ne s'agit pas d'une citation du Cantique des Cantiques, dans l'Offertoire Justitiae Domini, il y a un lien direct avec l'idée que les cœurs, quand ils sont nourris des jugements divins, alors il y a cette idée que le jugement divin est toujours droit, quoi qu'il arrive, même s'il peut paraître injuste, etc. Et il fait que le cœur devient doux. Ça, c'est très intéressant, cette idée. C'est-à-dire que le cœur peut être dur.
Oui.
Le cœur de pierre, on connaît bien. Bon, la thématique est très connue. Mais quand le jugement est juste et quand il est ressenti avec justesse, le cœur devient doux et plus doux même que le miel ou le rayon de miel. Et ça, c'est le Cantique des Cantiques, justement. Ce miel pur, cette parole qui est plus pure et plus meilleure que le miel. Et alors, on va avoir du coup des extases presque sur les mots. Hein. Par exemple, « et dulciora super mel et favum ». Donc, ils sont plus doux que le miel et le rayon de miel. Alors, on va... Excusez-moi, ça va être presque être indécent, mais on va travailler justement beaucoup sur l'expression du texte, la force du texte. Et dulci, il va falloir goûter le texte. Et dulci ora super mel et vous voyez, donc là on est vraiment dans
on voit des fontaines de miel là.
Oui,
on les
voit, mais c'est l'image, c'est le Moyen-Âge, c'est le pouvoir de l'image qui prend sens. Ce n'est que ça. Alors, et c'est ça dont on a tant besoin, la poétique qui part de l'image.
Alors Frédéric, peut-être nous rappeler ces dates de stage. Alors est-ce que justement en 4 ou 5 jours on a le temps de s'initier à tout cela et puis de commencer à pouvoir chanter?
On a le temps parce qu'on fait que ça. Ouais. Et qu'on lâche prise parce qu'on n'est pas chez soi, on n'est pas bloqué par des obligations qu'on a tous. Et on se dit, voilà, je me donne 5-6 jours. Et au bout d'un moment, de toute façon, il y a un travail d'intégration, de maturation qui fait qu'il y a toujours une transformation. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre le temps. Parce que si on ne se donne pas le temps, on est prisonnier finalement de cette cage qui est dit, si j'ai pas ce rapport, vous savez, au résultat qui nous emprisonne. On n'est pas dans un rapport au résultat, là. On est dans un rapport, on est dans l'expérience et dans ce qui se produit et dans le goût. Retrouver le goût, tout simplement. Donc là, du 6 au 11 août à l'ancien monastère de Sainte-Croix, ce sera un travail surtout sur les émotions parce que j'ai voulu vraiment faire un travail là-dessus. Après, il va y avoir aussi un travail toujours sur Hildegard de Bingen. Parce que vous savez très bien que je suis beaucoup dans son œuvre. Et là, on va travailler toujours en même monastère, à l'ancien monastère de Sainte-Croix, du 26 au 30 août, collaboration avec Catherine Roy. Elle travaille sur tout ce qui est du domaine de l'énergétique. On va travailler sur la vue et la vision, parce qu'Hildegard parle beaucoup de rapport entre la vue et la vision. Qu'est-ce que la vision, puisqu'on ne voit pas avec l'œil? Et puis, il y a le rapport au champ, parce que dans ces champs, il y a toujours question de vision, bien sûr. Puis, un stage que j'aime beaucoup faire aussi, à Saint-Antoine-l'Abbaye, à l'Arche de Saint-Antoine, qui est une communauté fondée par Lanza del Vasto, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'univers, et qui nous accueille du 22 au 28 octobre. Et là, on va travailler bien sur le chant grégorien, mais on va aussi travailler sur le chant des Antonins, qui était un chant, vous savez, pour guérir le mal des ardents.
Quel beau programme, mon cher Frédéric. Alors peut-être renvoyer les auditeurs en quelques mots sur votre site internet.
Voilà, donc frédéricrentière.com, donc RANTIERES sur Google, il y a tout est indiqué. Voilà.
Ou sur l'ensemble Voxinrama, il suffit de regarder un petit peu ce que fait votre magnifique ensemble. Merci beaucoup Frédéric.
Merci Maxime.